Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, nous voilà réunis pour une nouvelle émission. L'émission précédente, nous avions abordé le milieu du XXe siècle avec l'art brut, le pop art et les dérives scatologiques, notamment celle de Manzoni. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les années 50-60, dans lesquelles s'inscrit d'ailleurs Piero Manzoni. Nous parlerons ici des nouvelles avant-gardes. Il est vrai que c'est une période, ce milieu du XXe siècle, où le monde de l'art, et notamment l'art plastique, va complètement délirer. Tout est permis, tout est prétexte à expression artistique. Et ce sont autant de mouvements divers qui se chevaucheront, s'entremêleront, exploseront en tous sens. Des groupes de recherche vont se créer, composés autant de plasticiens que de musiciens, de philosophes, sociologues, techniciens, puisque de nouveaux moyens techniques font également leur apparition et seront utilisés comme moyens d'expression. On assiste donc à l'émergence de nouvelles voies liées en partie au décloisonnement des disciplines entre elles, ce qui débouchera sur des interdépendances singulières entre architecture, musique, danse, art plastique, sociologie, etc. Ici, l'état d'esprit des artistes est réellement révolutionnaire, anticonformiste, avec un refus catégorique de toute expression artistique traditionnelle et de tout dogmatisme. C'est la liberté totale. De plus, l'artiste investit réellement l'espace, il sort du cadre de toutes les manières. Il affiche librement ses états d'âme, qu'il exprime de manière insolite. Aussi, ce rapport qu'il entretient avec l'espace, la pensée et le réel est totalement inédit. L'art, ici, est considéré comme lieu d'expérience et dépend beaucoup du milieu dans lequel il se déploie, ce qui donnera lieu à des mises en scène avec des interventions insolites et spontanées qui seront nommées « happening ». Dans d'autres cas, les artistes multiplieront les performances qui sont des actions spectacles. L'artiste se met en représentation pour réaliser une création en prise directe avec le public. Certains artistes s'attacheront au concept et à l'idée plutôt qu'à l'objet, d'autres s'intéresseront davantage aux phénomènes cinétiques et perceptifs. Dans ce dernier cas, va émerger un art qui sera nommé art cinétique. C'est un terme qui a déjà été utilisé dans les années 20 et notamment expérimenté par un artiste nommé Naum Gabau. Cependant, l'art cinétique explose dans les années 50-60. Cette forme d'art est basée sur l'esthétique du mouvement, ce qui veut dire que des formes en volume, des sculptures ou d'autres éléments hétéroclites sont mis en mouvement soit par le vent, un moteur ou même par le spectateur. Et pour vous donner un exemple, je vais prendre celui de l'artiste Alexandre Calder, dont certaines œuvres sont sous forme de mobile. Bon, je pense que vous savez ce qu'est un mobile. C'est un ensemble composé d'objets accrochés dans l'espace et qui se meut sous l'effet du vent. Par exemple, l'une des œuvres de Calder, nommée Mobile Rouge, est composée de feuilles de métal peintes en rouge et reliées de manière à évoluer ainsi. Alors, l'art cinétique s'associe à l'art optique, qui est une forme de l'art cinétique et qui sera nommée le hop art et non pas le pop art. Le hop art correspond davantage à la production et manifestation d'effets d'optique grâce à des jeux de lumière et à une nouvelle utilisation de la couleur ou de celle des contrastes, notamment entre noir et blanc. Et pour vous donner un exemple, je vais citer l'artiste vénézuélien Carlos Cruz Diaz, dont le travail est axé sur la couleur et les perceptions qui en découlent. Pour cet artiste, la couleur est une réalité autonome détachée de l'anecdote ou d'un support. La couleur vit par elle-même. Il s'attache donc à mettre en relief les perceptions que nous en avons grâce à des mises en situation et s'arrange pour que la couleur évolue dans l'espace sans qu'elle soit dépendante d'un support quelconque. En général, tous ces artistes engagés fonctionneront plutôt en groupe. Et c'est notamment le cas du groupe Zéro, fondé par des Allemands, l'artiste Heinz Mack et le peintre Otto Pinn. Zéro fait partie de l'avant-garde internationale des années 50-60. Et c'est un mouvement très important qui va toucher bon nombre d'artistes émanant de nombreux pays qui, en dehors de l'Allemagne, sont la France, la Suisse, la Belgique, l'Italie, le Japon ou le Venezuela. Et c'est vrai que Zéro naît en Allemagne dans les années 50 et qu'il est fondé par des artistes qui veulent en découdre avec les traumas de la guerre. Et donc, ceux-ci prônent une attitude artistique qui doit faire table rase du passé pour recréer un renouveau. En un mot, on recommence tout à zéro. Et pour mieux vous faire comprendre leur motivation, je vais reprendre les mots des fondateurs que sont Heinz Mack et Otto Pinn. Heinz Mack disait « L'expédition de notre imaginaire s'éloigne irrésistiblement de la mélancolie étouffante des vieilles habitudes que nous nommons l'oxydation archaïque, c'est-à-dire la culture européenne. Une nouvelle collaboration d'artistes devra congédier les fonctionnaires et les consommateurs, de même que ses utopistes et ses prophètes. La réserve totale de l'art sera une nouvelle liberté, elle est l'expression de la zone zéro. » L'expression de nos attentes sans bornes. Donc vous voyez là que c'est vraiment l'ouverture à tous les possibles. Quant à Otto Pinn, il disait « Je croyais à une autre forme de renaissance. Elle devait être spirituelle, intellectuelle, fondée sur les domaines d'excellence de l'histoire allemande, c'est-à-dire l'art, l'humanisme, la créativité intellectuelle. » D'une certaine manière, Zéro est né d'un esprit de résistance face à la montée d'un nouveau matérialisme, avec l'espoir qu'un nouvel esprit, un nouveau départ, ouvrirait une nouvelle période pour la pensée et les émotions de la vie. À cette époque, l'idée la plus répandue était que le bien-être matériel rendrait les gens heureux, et j'étais contre cela. Voilà pour l'état d'esprit des fondateurs de Zéro. Alors ceux-ci manifesteront leurs idéaux en créant des expériences, notamment avec la lumière et des effets liés à celle-ci, le tout dans des interactions qui vont déborder du cadre du langage pictural pour investir l'espace. Donc Zéro, dans l'ensemble, va privilégier la dynamique du mouvement, la recherche de sensations liées à la lumière. Et je vais vous donner un exemple, c'est celui d'Otto Pinn, qui plonge une salle dans le noir total et l'anime ensuite avec des ombres, des reflets en mouvement, le tout dans une ambiance musicale. En 1961, le peintre-sculpteur allemand Günther Wecker, adepte du bouddhiste zen, influence encore la philosophie du groupe. Donc tous ces artistes trouvent leur terrain d'expérimentation grâce à la lumière, à des œuvres animées, motorisées et beaucoup grâce à l'utilisation du blanc qui est la synthèse de toutes les couleurs. Et je citerai ce que disait Heinz Mack par rapport à son expression artistique. L'espace ouvert et profond, qui, même à l'horizon, ne veut pas trouver sa limite, est la libre sphère pour mon regard qui parcourt les étendues proches et lointaines, sans direction, sans intention ou pesanteur, jusqu'à ce que mon regard me revienne. Dans de pareilles étendues, la clarté de la lumière et la plénitude du calme se répandent continuellement. Et c'est par la lumière que l'espace a sa sensibilité, son atmosphère, sa transparence. Bon, c'est une attitude plutôt zen, en effet. Alors, d'autres groupes se créeront dans la continuité de Zéro, comme le groupe Nul aux Pays-Bas ou le groupe Gutai au Japon. En France, se créera le GRAV, qui signifie « groupe de recherche d'art visuel ». Et ce dernier s'illustrera notamment en intervenant sur l'environnement et en impliquant le public, l'obligeant à réagir et à participer. Coucou ! J'espère que vous êtes toujours là, que vous ne vous laissez pas bercer par ma douce voix. Mon but n'est pas de vous endormir, hein, je le rappelle. Alors essayez de vous accrocher un peu malgré la complexité du sujet. Et pour me décontracter et peut-être pour vous réveiller, je vais vous passer une musique des années 60 qui amorce la venue de ce type de musique nommée psychédélique, où il est question de rythmes répétitifs, hypnotiques. Alors là, il s'agit de rock psychédélique d'un groupe texan qui se nomme, alors je vais essayer de le prononcer correctement en anglais, Certain Floor Elevators. Ça massacre, mais bon. Pour une chanson intitulée You're Gonna Miss Me. Vous êtes toujours là, nous allons continuer. Alors dans tout ce foisonnement artistique apparaît le nouveau réalisme fondé en 1960 qui entre en résonance avec le mouvement réaliste du 19e siècle, sauf que ici il s'adapte à la réalité du 20e. À l'origine du nouveau réalisme, on trouve le critique d'art français Pierre Restany. Alors, le nouveau réalisme s'oppose d'ailleurs à la figuration narrative qui émerge fin des années 60, début 70, qui, elle, propose l'histoire du quotidien avec des sujets d'actualité, avec également parfois un engagement politique. La figuration narrative présente une peinture figurative qui s'inspire de la photo et de la bande dessinée. Et vous trouverez des artistes comme Rancillac, Jacques Monoury, pour ne citer qu'eux. En ce qui concerne le nouveau réalisme, il se pose un peu en critique de la société bourgeoise et capitaliste. Ce courant sera notamment impulsé par l'artiste plasticien Yves Klein, qui lui est subjugué par le vide. Le rien en tant que quelque chose qui attire et absorbe. Il a également réalisé des tableaux monochromes entièrement bleus et ce n'est que de la couleur sur une surface plane. Il est d'ailleurs le créateur du bleu Klein qu'il a breveté sous le nom d'International Klein Blue. Alors pour illustrer ce que je viens de vous dire au sujet de la couleur bleue, je vais vous lire quelques phrases de Klein. Le bleu n'a pas de dimension, il est hors dimension, tandis que les autres couleurs, elles en ont. Ce sont des espaces pré-psychologiques. Toutes les couleurs amènent des associations d'idées concrètes, tandis que le bleu rappelle tout au plus la mer et le ciel, ce qu'il y a après tout de plus abstrait dans la nature tangible et visible. C'est également Yves Klein qui organise une mise en scène avec trois femmes entièrement nues qui se badigeonnent de bleu pour ensuite se rouler sur du papier qu'elles impriment avec leur corps. Et à part ses obsessions en bleu, Klein s'est illustré dans d'autres réalisations et donc d'autres performances. Bon, ceci dit, on peut parler avec le nouveau réalisme d'un recyclage du réel. Ce retour à la réalité se matérialise en règle générale par l'utilisation des objets usuels du quotidien de l'époque, et ce pourra être des objets de la consommation courante. Il est question, d'une certaine manière, du statut de l'objet dans l'œuvre d'art. Alors, ceux-ci vont être utilisés par les artistes de manière à donner de l'importance à leurs idées. Et là, il ne s'agit plus de représenter, mais de montrer, et peut-être de se poser des questions sur la production de masse. Par exemple, César tire des objets de l'univers technologique pour les compresser et en faire une œuvre d'art. Armand, quant à lui, accumule. Il réalise des séries qu'il nomme poubelles avec des accumulations de détritus, où il fait des découpes et des combustions, comme ce sera le cas pour les instruments de musique. Christo, lui, il emballe, que ce soit des édifices urbains ou des arbres et des éléments naturels. Raymond Heinz présente des panneaux d'affichage avec des affiches lacérées collées sur tôle. Nikit Saint-Phalle a également fait partie du mouvement. Son sujet de création, c'est la femme et la condition féminine. Par exemple, elle a réalisé une œuvre nommée Crucifixion qui nous donne une image plutôt dérangeante de la femme. Alors, cela ressemble à une poupée désarticulée, provocante, avec des attributs féminins volumineux, un pubis noir exposé au regard, des jarretelles ou des bigoudis posés sur une toute petite tête, et le tout constitué de grillages et d'objets divers. Et c'est pour moi une image de la prostituée et de la ménagère qui est peu engageante. Et là, je pense qu'elle nous propose de voir la femme au travers de certains regards masculins. Cela laisse supposer une vraie vie de femme, hélas, pour celle prise au piège. C'est également Nikit Saint-Phalle qui a réalisé les fameuses nanas, ces sculptures de femmes volumineuses et hautes en couleur. Et vous trouverez également Tingeli, qui a été son mari, et qui lui crée ses baloubas, où il emploie toutes sortes d'objets, de déchets, qu'il place sur des bidons industriels, comme on placerait une sculpture classique sur un socle. Puis ensuite, il les anime avec un moteur pour que l'ensemble produise une joyeuse pagaille. Et là, on se rapproche de l'art cinétique. Alors, dans ce foisonnement d'artistes, de mouvements, de groupes qui font éclater tous les repères, on en distingue un nommé Fluxus, créé dans les années 60 et dont le nom est donné par le designer d'origine lituanienne Georges Masiunas. Alors, Fluxus naît aux États-Unis et se développe en Europe. On peut dire que Fluxus est influencé par le dadaïsme et par Duchamp. Il rejette les valeurs liées à l'esthétique, rejette les institutions, remet en question la notion d'œuvre d'art, revendique le côté éphémère de la création. Alors, Fluxus rassemblera de nombreuses personnalités également issues d'autres domaines que l'artistique. Ce sera l'économiste Robert Filliou, qui finira sa vie en Périgord d'ailleurs, et être économiste ne l'empêchera pas d'être peintre et poète et d'accorder une grande importance au langage et aux mots. Ce sera le chimiste Georges Brecht qui crée les Ventes. Alors les Ventes, on va dire que c'est un petit scénario qui se réalise spontanément et anonymement, où il s'agit d'intervenir simplement. par exemple poser un pot de fleurs sur un piano. Mais c'est également le musicien coréen Noom Joom Polk, qui lui est un pionnier de l'art vidéo. Il y a aussi le musicien américain John Cage, qui s'intéresse à une musique dite expérimentale, car comme son nom l'indique, cette musique expérimente d'autres possibles. Et en général, elles sont associées aux mises en scène et s'allient parfois à des sons produits par les interventions artistiques. Alors la musique expérimentale est donc avant-gardiste et préfigure le minimalisme, qui est une simplification à l'extrême. Bon, mais j'en parlerai après. D'une certaine manière, et dans certains cas, ce serait une musique sans musique. C'est au spectateur auditeur de se débrouiller avec ce qu'il reçoit en images et en son, si tant est qu'on puisse dire qu'il reçoive quelque chose. Bon, mais tout ceci dépend des idées et des concepts des artistes, d'un état d'esprit qui renvoie également à l'art dit conceptuel, où ce qui compte, c'est la démarche artistique qui peut aller jusqu'à ce que l'artiste ne produise plus rien. Alors, j'ai trouvé une composition du musicien américain John Cage, où il y a quand même quelque chose à entendre, sans qu'il y ait de scène pour accompagner. Alors, John Cage, dont l'influence avant-gardiste est prépondérante, j'espère vous donner un aperçu. Alors, la composition, celle-ci date de 1948, et il s'agit de musique for Marcel Duchamp. Alors, vous vous souvenez de Marcel Duchamp, qui est issu du mouvement Dada et dont l'influence est aussi prépondérante en art contemporain. Et John Cage avait rencontré Duchamp. Alors pour en revenir à Fluxus, on peut dire que Fluxus va abolir les frontières entre l'art et la vie. Tout est art. Et dans cet esprit, il développe le happening, ce qui veut dire que l'art s'installe où il veut, quand il veut, et il se concrétise au travers d'événements et de mises en scène, etc. Et l'une d'elles que j'ai vue sur vidéo se déroulait dans la rue, sous la pluie, des voitures partout, quelques personnages en situation et en guise de fond sonore, les concerts de klaxons. Donc vous avez compris qu'avec Fluxus, tout est art, il suffit de créer l'événement et de décider que cet événement soit de l'art. Et de toute façon, avec Fluxus, l'acte est plus important que le résultat final. Un artiste phare de ce mouvement apporte une conception personnelle que je trouve intéressante dans le sens où il adopte une conception de l'art personnelle, à la fois personnelle, sociale et universelle. Cet artiste, c'est un sculpteur d'origine allemande qui se nomme Joseph Buys. Et lui aussi donc organise des événements en abolissant les frontières entre les différentes formes d'art et fait des interventions en dehors de ses créations purement formelles. Et sa philosophie est en prise directe avec un anthroposophe nommé Rudolf Steiner, dont je me suis intéressée aux recherches et aux travaux. L'anthroposophie est définie comme la science de l'esprit, et je vais essayer de définir à ma manière ce qu'est l'anthroposophie, et je vous prie de m'excuser d'avance pour mes lacunes. Je dirais que l'anthroposophie, c'est un chemin de connaissance et de sagesse avec des applications pratiques pour favoriser les relations harmoniques que l'homme entretient avec lui-même et avec le monde. L'anthroposophie s'intéresse à la dimension spirituelle de l'être. Elle crée un pont entre l'esprit et la matière qui lui est en quelque sorte assujetti. Et l'anthroposophie s'applique à divers domaines comme l'agriculture et la médecine, notamment. Bon, ma définition est certainement imparfaite parce que je ne peux résumer sa complexité, mais pour ceux que ça intéresse, ben je les encourage à faire des recherches. Alors pour en revenir à Buys, c'est quelqu'un qui s'est nourri de littérature, de philosophie, de science, de biologie, etc. Et Buys utilise son art comme moyen d'attirer l'attention du public sur les liens qui existent entre l'homme et la nature et sur le fait que chaque être possède en lui des facultés créatives. Souvent en sommeil, mais qu'il peut décider d'éveiller afin de les exprimer dans son existence en toute liberté. Et il disait à ce sujet « Tout homme est un artiste ». Il disait d'ailleurs, et je cite, « La question, c'est la capacité de chacun sur son lieu de travail, et ce qui compte, c'est la capacité d'une infirmière ou d'un agriculteur à devenir une puissance créative et à la reconnaître comme une partie d'un devoir artistique à accomplir. » Bon, dans son travail, il crée des concepts, ses idées et expériences artistiques le conduisent à envisager la sculpture sociale et le fait de sculpter avec la pensée. Il prend l'exemple des abeilles dont l'activité génère de la chaleur et cette chaleur transforme la cire informe en une structure organisée qui se matérialise en cellules hexagonales d'une qualité architecturale. Alors dans son travail artistique, il utilisera des matériaux conducteurs de froid et de chaleur, comme par exemple le feutre, la graisse, le cuivre, et ainsi il donnera corps à ses idées. Au fond, Buys est un artiste politique par son engagement artistique. Et je termine avec Buys par quelques-unes de ses réflexions. Donc il disait « Tout le monde est artiste au sens où il peut donner forme à quelque chose ». Et ce qui doit à l'avenir prendre forme est ce qu'on appelle sculpture sociale de chaleur. C'est ce principe qui devrait permettre de triompher de l'aliénation propre au monde du travail. Procédé thérapeutique, mais aussi procédé de réchauffement. Et cela, à son tour, va évidemment de pair avec le principe de fraternité, qui enferme en son sein le concept de chaleur. Bon, il est évident que cet état d'esprit me touche et c'est un personnage intéressant. Bon, en tout cas, j'espère que vous comprenez l'esprit de l'époque. C'est sûr que le XXe siècle est véritablement une ère nouvelle pour les arts. Aussi, c'est un peu difficile même pour moi de suivre le fil parce que ce qui afflue est complexe. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir en espérant que vous avez passé un moment agréable et aussi instructif.